Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Nous avons lu 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Et ce matin, à partir de ce passage, le Seigneur m'a mis à cœur donc de parler d'un sujet, d'un thème dont on ne parle pas forcément très souvent. C'est de l'enfer. Hein, on ne parle pas très souvent de l'enfer. Peut-être parce que c'est un thème qui nous met mal à l'aise, même en tant que chrétien. C'est un thème qui nous attriste. Un thème peut-être qui nous interroge, sur lequel on doute. Et c'est vrai que si autrefois on pouvait plutôt aborder dans l'évangélisation les gens en les invitant à réfléchir sur leur destinée, aujourd'hui c'est rarement l'angle d'attaque qu'on prend. On préfère parler plutôt axé sur les desseins bienveillants de la bonté de Dieu, effectivement, sur son amour, sur ses projets pour notre vie. Et dans notre texte en 2 Thessaloniciens, on voit que la mention des desseins bienveillants de la bonté de Dieu suivent très exactement cette mention d'une destinée éternelle, qui est une ruine éternelle, et qu'on a communément appelé par le mot enfer. Alors on va revenir brièvement à 2 Thessaloniciens pour nous remettre en mémoire quelques aspects qui vont nous aider ce matin à considérer ce sujet. L'enfer existe-t-il vraiment? Qu'est-ce que c'est? Qui va y aller? Qui va pas y aller? Est-il compatible avec la nature de Dieu, avec son amour, avec son dessein bienveillant? Voilà des tas de questions qui sont les nôtres. Alors nous reprenons 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu. Déjà une notion importante sur laquelle on va revenir. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Qui ça concerne? On revient là-dessus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle caractérisée par l'éloignement de Dieu, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré. Est-ce que vous admirez Jésus-Christ? Est-ce que j'ai un cœur qui aujourd'hui admire Christ? On a chanté précieux Jésus. Il est précieux quoi qu'il en soit. Dieu est Dieu, qu'on croit en son existence ou qu'on n'y croit pas. Il est. Jésus est précieux quoi qu'il en soit, mais est-ce que mon cœur à moi l'admire? Alors, pour parler de ce sujet de l'enfer, j'aimerais auparavant rappeler plusieurs notions. Et d'ailleurs, on ne va pas énormément se pencher sur une description de l'enfer, parce que la Bible ne nous le décrit pas complètement, elle donne des images, suffisamment pour ne pas avoir envie d'y aller. Mais on va reprendre plusieurs notions. D'abord, dans notre texte, nous avons cette idée d'une ruine éternelle, l'éternité, en contrebalancement de la vie éternelle. L'éternité, ça c'est une question. On peut dire, est-ce qu'il y a un temps limité ? Est-ce que c'est éternel ? Et il est important de nous rappeler que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, corps et âme, pour l'être humain. Et quand on réfléchit à l'éternité, d'abord Dieu avait créé l'être humain, est-ce qu'il l'avait créé pour mourir ? Non. Est-ce qu'il l'avait créé pour avoir un terme, une date limite de péremption ? Non. Il l'avait créé pour l'éternité. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment, depuis que la mort est entrée dans le monde, nous nous sentons mal à l'aise avec le temps, dans le temps. Nos journées ne sont pas assez longues. Tout passe trop vite. Déjà 40 ans, déjà 60 ans. Pourquoi ? Parce que depuis que la mort est entrée dans le monde, il y a cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de chacun d'entre nous, et on ne sait pas quand ça va finir, et finalement, on n'est pas à l'aise dans le temps. On arrive à 18 ans et on vous dit « faut choisir un métier ». Ben attends, laissez-moi le temps. T'as pas le temps. Parce qu'il faut vivre, il faut que tu aies un métier, il faut que tu t'assumes. Hop. Puis on se dit « c'est dommage ». Moi, j'aurais bien aimé avoir plusieurs existences parce que j'ai dû choisir ce métier-là, mais j'en aurais bien choisi un autre. Ça m'aurait plu, tiens, moi, de faire passer, je sais pas, une trentaine d'années à être médecin, tout ça. Puis après, je sais pas, explorer une autre trentaine d'années à être inventeur de fusées. Que sais-je ? Vous voyez, on se dit, mais finalement, on est mal à l'aise dans le temps et dans le temps limité depuis que la mort est entrée parce que nous avons une notion d'éternité. Nous avons une notion d'éternité. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et cette vie n'est pas la fin de tout. Cette vie terrestre, lorsque nous disons que nous rendons notre dernier soupir, c'est très relatif. Parce que la parole de Dieu nous parle, nous le verrons, d'un temps intermédiaire, nous le verrons, dans le séjour des morts, puis d'une résurrection. D'une résurrection de tous. Les justes et les injustes. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la ruine éternelle. Alors nous revoyons, donc nous repartons de cette notion d'éternité. L'être humain créé à l'image de Dieu et qui n'est pas à l'aise dans le temps depuis que la mort est entrée et lui donne un terme, parce que nous avons dans le cœur, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Deuxième chose, deuxième notion que j'aimerais rappeler, c'est la sainteté. On ne va pas pouvoir réfléchir à la notion de l'enfer sans parler de la sainteté. C'est peut-être la caractéristique première que la Bible met en avant concernant la nature de Dieu. Dieu est saint, 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 saint et l'éternel. Il y a d'autres qualificatifs qui caractérisent Dieu. Mais l'une des caractéristiques les plus mises en avant dans la Bible, c'est sa sainteté. Et la sainteté est donc ici une notion péremptoire, incontournable, quant à ce que Dieu fait, quant à ce qu'il projette, et c'est une notion incontournable quant à son rapport avec l'être humain. Dans son rapport avec l'être humain, la notion de la sainteté est une notion, je le répète, péremptoire. Troisième notion qu'on rappelle, c'est le libre arbitre et la responsabilité humaine. Dieu a créé les hommes droits, nous dit l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, verset 29. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Effectivement, l'être humain, il sort de la sainteté, cette sainteté caractéristique de Dieu, parce qu'alors que Dieu l'a créé droit, eh bien, l'être humain cherche des détours. Il se contorsionne avec ce qui est parfait. Et ça s'appelle le péché. Et tous dans notre existence, nous faisons des contorsions par rapport à ce qui est juste. Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos projets, et nous péchons. Il y a quelque chose qui fait que nous nous opposons, nous affrontons Dieu. Et c'est une notion importante dans la parole de Dieu, ça s'appelle la rébellion. La rébellion contre Dieu. D'abord une rébellion contre sa nature et contre ce qu'il est. Lorsque je pèche, je prends une position intentionnelle et volontaire contre ce que Dieu est, contre ce que Dieu veut. Et je me positionne en ennemi de Dieu par mes pensées, par mes mauvaises œuvres. Non, je ne serai pas, je ne ferai pas, je n'agirai pas selon ce qui est juste et selon ce qui est bien. Et deuxièmement, cette rébellion concerne l'autorité d'un créateur sur sa créature. Jardin d'Éden, Satan a dit à Adam et Ève, mais vous serez vos propres dieux. Si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir vous-même Dieu, indépendant d'un créateur, indépendant d'une autorité, indépendant d'une souveraineté sur votre vie. Et cette rébellion contre Dieu, c'est le fait que je veux être mon propre Dieu. Je veux être mon propre maître, avec mes propres valeurs, avec ma propre échelle de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, avec ma propre échelle de moralité, et avec la construction d'une vie, finalement, qui n'émane que de moi-même. Et Dieu est vécu comme une intrusion dans mon existence. Dès lors que Dieu paraît avec sa volonté à lui pour ma vie à moi. Ça me dérange profondément. Dieu est vécu comme une intrusion. Lorsqu'il arrive avec sa volonté, me concernant. Ça ne va pas, dis donc. Tu m'as créé, maintenant tu me... Ouh, retire-toi. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. Cette rébellion, donc, d'une créature face à celui qui l'a façonné, créé, va dire, ben écoute, d'abord, je t'ai rien demandé, tu m'as créé, je t'ai rien demandé, et puis, deuxièmement, c'est bien, tu m'as créé, mais maintenant, va voir ailleurs si j'y suis, j'ai ma vie, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Laisse-moi à moi-même. Retenez ça pour la notion de l'enfer tout à l'heure. Laisse-moi à moi-même. Donc une relation avec Dieu que l'homme rejette et une sainteté que l'homme rejette. Oh, il ne la rejette pas complètement, nous le verrons tout à l'heure dans la notion de justice, hein, mais il la rejette à l'occasion, partiellement, pour lui-même. Alors, Dieu a créé l'être humain capable de faire des choix. Il n'oblige pas l'être humain à être en relation avec lui, il n'oblige pas l'être humain à lui obéir, il n'oblige pas l'être humain à l'aimer. Choisis. Dieu dit, voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Franchement, choisis la vie, hein. Mais fais tes choix. Repensez-y quand nous sommes en train de parler de l'enfer. Fais tes choix. C'est un choix. Oui, ce libre arbitre et en même temps cette responsabilité, l'être humain dans ses agissements est responsable. Alors, on se rebelle contre Dieu. Bien souvent, on finit par s'arranger en prenant comme principe de vie, par exemple, que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, je ne suis plus rebelle à personne. Si Dieu n'existe pas, à qui suis-je rebelle ? À personne. Ou alors on émet des doutes sur son existence. On dit, il existe peut-être, oui, je crois que quelqu'un, quelque chose, il y a quelque chose qui existe. Mais par contre, on ne peut pas savoir qui il est vraiment, puisqu'il reste silencieux, il s'est retiré, et toutes les religions finalement, oui, il y a quelque chose qui existe, mais tout ça, ce sont les hommes qui cherchent à inventer, à mettre des mots sur un Dieu qui lui n'en a pas mis. Qui ne s'est pas révélé. Hein, on peut dire, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui existe, mais cette chose-là ne s'est pas révélée, ne s'est pas manifestée, et comme elle n'a pas donné signe de vie, je ne suis rebelle à rien du tout. À quoi suis-je rebelle ? Je sais qu'il y a quelque chose qui existe, il ne peut pas en être autrement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Évidemment, il y a quelque chose. Mais je suis dégagé de toute responsabilité parce que manifestement, ce qui existe, cet être suprême, eh bien, il n'est pas venu parler à l'humanité. Et donc, je suis dégagé de toute responsabilité. Eh bien, si, Dieu a parlé. Il a parlé à plusieurs reprises, en plusieurs manières, par les prophètes, nous dit Hébreux. Il a parlé dans les derniers jours par le Fils qui est venu lui-même. Si bien que notre calendrier aujourd'hui en Occident, c'est ce qu'il y avait avant Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a après Jésus-Christ. Oui, il y a eu une empreinte qui a été laissée. Et nous en avons le témoignage dans toutes les bibliothèques et sur la plupart des étagères des foyers. Dieu offre la réconciliation. On peut se dire, oh là là, on est mal fichu, là. La rébellion de l'homme, avec cette notion d'éternité, la sainteté de Dieu, et puis, en contrepartie, une rébellion qui tient au cœur de chacun d'entre nous, est-ce qu'on a une chance ? Oui. Tout au long de ma vie, Dieu m'offre de me réconcilier avec lui, de renouer le lien rompu entre lui, mon Créateur, et moi, sa créature. Et comme le pivot de cette rupture, c'est la rébellion. Sainteté et autorité de Dieu sur ma vie. Eh bien, être réconcilié avec mon Créateur, ça va impliquer la repentance. La repentance, c'est ce retour sur soi vis-à-vis de mes actions, de mes pensées, de ma manière de vivre qui n'est pas, qui ne s'inscrit pas, ou qui ne s'inscrit pas toujours, ou qui ne s'inscrit pas comme il faut dans la perfection et dans la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et la repentance, c'est dire: oui Seigneur, tu es saint, tu as raison de l'être, et moi je suis coupable. Par bien des actions, par bien des paroles, par bien des projets, je suis nocif. Nocif à moi-même et nocif aux autres autour de moi. Eh bien, je t'en demande pardon. Je veux me réconcilier avec ta sainteté pour qu'elle vienne de plus en plus habiter ma vie. Et puis, c'est la conversion. La conversion, bibliquement, ça signifie faire demi-tour. C'est changer radicalement de direction. La direction d'une vie où je suis plus ou moins mon propre maître, même si je crois en Dieu, même si je crois en son existence, je crois, mais il n'a pas autorité dans ma vie. Sa volonté me concernant, je dis: oula, là tu franchis les limites, tu rentres dans ma bulle. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Eh bien, il y a ce jour où je peux faire demi-tour en disant: Seigneur, je veux que ça t'appartienne maintenant. Rentre dans ma bulle. Je veux que ta volonté, et la Bible nous dit sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nous avons lu tout à l'heure, juste après, hein, Thessaloniciens, juste immédiatement après cette description du sort final de l'enfer, nous avons lu quoi ? À propos des desseins bienveillants de la bonté de Dieu. Bien sûr, sa volonté dans ma vie, c'est quelque chose, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Mais c'est résolument ce demi-tour en disant: Seigneur, je t'ouvre ma vie, j'avais une direction qui n'allait pas vers toi, avec toi, selon toi, et bien maintenant je prends une direction qui va vers toi, avec toi, selon toi. Mais il y a malheureusement la persistance dans la rébellion. Vous avez noté que notre texte aux Thessaloniciens parle premièrement de ceux qui ne connaissent pas Dieu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Je persiste dans ma rébellion. Et nous le verrons tout à l'heure, nous avons jusqu'à notre dernier souffle pour ne pas persister, mais faire demi-tour. L'histoire du salut, c'est l'histoire jusqu'à quel moment je persiste dans la rébellion et à quel moment de ma vie terrestre j'abandonne et je cesse d'être rebelle à Dieu. En Romains 1, parce que nous avons parlé de ceux qui ne connaissent pas Dieu. On dit: mais les pauvres, pourquoi vont-ils être punis? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Romains 1 nous rappelle des choses fondamentales. Il ne s'agit pas tant de ne pas avoir pu connaître Dieu, mais de ne pas se soucier de le connaître. En Romains 1, nous voyons au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi ? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusable, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Nous le mettons en contraste dans 2 Thessaloniciens 1 avec ce au verset 12. Non, pardon, au verset 10. Pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Hein, nous le mettons en relation, glorifié et admiré. Et bien là, au contraire, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et nous voyons un petit peu plus loin, au verset 28. Et regardez ces deux versets, 28-29, qui peuvent peut-être nous donnent un aperçu de ce que c'est que l'enfer. Nous l'avons dit tout à l'heure, être laissé à soi-même. Vous voulez savoir ce que ça fait que d'être laissé à soi-même ? Regardez le verset 28 et 29. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il les a laissés à eux-mêmes. Tu veux pas te soucier de me connaître ? Eh ben, je te livre à toi-même. Hein? Cette expression, des fois, on dit, ouh là là, faut pas laisser un enfant livrer à lui-même. Hein? Si tu le laisses livrer à lui-même, il va te faire des bêtises. Je sais pas ce qu'il a, mon fils, ma fille, l'être humain. Dieu dit, tu veux savoir ce que c'est que d'être réellement laissé à soi-même ? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ça, c'est l'être humain laissé à lui-même. Nous ne voyons que très partiellement aujourd'hui sur cette terre parce que l'être humain n'est pas réellement laissé à lui-même. On en reparlera. Mais on voit, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et de voir ce que l'être humain est capable d'accomplir. Il suffit d'allumer la télévision ou de prendre un journal pour voir ce qui se passe. Et puis, il suffit de regarder sa propre existence et de voir, tous nous sommes plus ou moins les témoins de toutes sortes de choses qui se passent autour de nous. Et puis, si on veut bien l'admettre, nous sommes aussi les témoins de ce qui se passe en nous-mêmes, chez nous-mêmes. Alors, la persistance dans la rébellion pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, Romains nous dit que c'est pas tant qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas le connaître, ils ne se soucient pas de le connaître, ils ont l'occasion de le connaître à travers le témoignage de la création, de la conscience. Et moi, je reste mon propre maître, je persiste dans ma rébellion. Alors, l'Évangile dit ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Il y a un verset de la Bible qui dit « Dieu ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, ayant fixé déjà le temps pour le jugement, et c'est Christ qui jugera. » Je cite le verset que très partiellement là. C'est dans les Actes. Dieu ordonne. Il s'agit d'obéir à ce moyen de salut que Dieu propose. Soyez réconciliés avec Dieu. Le Seigneur dit, tourne-toi vers moi, sois réconcilié. Aussi, l'histoire humaine sépare les hommes en deux catégories. Ceux qui se repentent et font demi-tour, concernant leur Créateur, concernant la sainteté et concernant son droit à nous faire vivre selon sa volonté. Et pas forcément selon la nôtre. Et puis la deuxième partie d'une humanité, ceux qui persistent dans cette rébellion, refusant que Dieu ait autorité sur leur existence. Et c'est profondément ce refus du lien avec Dieu, le refus de ce que Dieu est, le refus de sa présence dans ma vie. On s'en souvient tout à l'heure quand on reparlera de l'enfer. J'ai le choix de la présence de Dieu dans ma vie. Ou de refuser sa présence dans ma vie. Mais sa présence de ce qu'il est. Pas une présence partielle. En disant, bah, tiens, ta présence, je veux juste ceci ou tel morceau ou tel petit morceau de ce que tu pourrais me donner, mais je veux pas tout le package, non. Non. Toi, en entier, dans ce que tu es Dieu, ta sainteté me dérange. Ton autorité me dérange. Ta perfection me dérange. Je trouve que c'est un peu intrusif, tout ça, dans ma vie. Ben oui, mais tu prends ou tu laisses. Tu veux ma présence, tu veux pas ma présence. Ah, elle est intrusive, ta présence. Et tous, nous avons ce chemin d'un cœur. Est-ce que, jusqu'à quand, est-ce que je vais continuer d'estimer la présence de Dieu dans ma vie, intrusive ou pas? Et la conversion, c'est quand je dis au Seigneur, viens dans ma vie. Alors, nous avançons avec une autre notion, la notion de la justice. Nous avons vu l'éternité, la sainteté, le libre arbitre, la rébellion, la possibilité de se réconcilier avec Dieu et la persistance dans la rébellion qui peut cesser à n'importe quel moment. On peut à n'importe quel moment dire « Seigneur, entre dans ma vie ». Et nous arrivons maintenant à cette notion de justice, parce que Thessaloniciens nous disait au verset 6, car il est de la justice de Dieu, pour tout ce qui suit. Notre rébellion se concrétise tous les jours, par divers actes, diverses paroles, attitudes, nous l'avons dit tout à l'heure, qui sont nocives et coupables, pour nous-mêmes, pour les autres. On l'a dit, on regarde l'histoire. On regarde la télé, les infos, on regarde notre propre expérience et nous voyons le mal que l'être humain est capable de commettre. Et alors, à ce moment-là, en tant qu'être humain, nous possédons un sens inné de la justice. Il y a quelque chose en nous qui réclame justice. Lorsque nous voyons quelque chose qui n'est pas juste, lorsque nous voyons quelqu'un faire du mal à un autre, etc., il y a quelque chose en nous qui se révolte, il y a une indignation. Oui ou non? Est-ce qu'on n'est pas indigné de voir des abus, des viols, des meurtres, des paroles méchantes? Ça nous... Et on a un sentiment, on a une aspiration de la justice. Il y a une colère, la Bible appelle ça la colère contre le péché. C'est quoi cette colère? C'est ce sentiment d'indignation contre ce qui n'est pas juste et qui réclame un rééquilibre. En disant là, il y a quelque chose qui est faussé, il y a quelque chose qui a été entravé, qui a été... Il faut rétablir. Et c'est pas pour rien que le symbole de la justice, sur les frontons de tous nos palais de justice ou ailleurs, c'est une balance. C'est une balance. Rétablir une balance que le péché a faussée. Et en nous, ce sentiment de justice, il est... Alors on peut l'étouffer, hein, mais il est inné. Et il est fort. Et il est violent. Surtout quand ça nous concerne. Ou quand ça concerne des gens que nous aimons autour de nous. Lorsque on fait du mal à quelqu'un qui nous est cher ou lorsqu'on nous fait du mal à nous-mêmes et qu'il y a quelque chose qui est injuste à notre égard, il y a quelque chose qui est là, qui est violent, qui est douloureux, et on veut la justice, on aspire à la justice. Et quand elle n'est pas rendue, on est profondément en colère. c'est vrai dans notre société. C'est vrai dans notre vie de tous les jours, dans nos rapports les uns avec les autres. Mais il y a quelque chose de bien curieux, c'est que si la justice nous tient vraiment à cœur concernant les autres, c'est rare qu'elle nous tienne autant à cœur lorsque nous sommes en cause. Lorsque la justice vient frapper à notre porte, à nous, et que nous sommes sur le banc des accusés, alors tout d'un coup, on a beaucoup moins envie de justice. D'abord, on est là comme n'importe quel accusé sur un banc dans un tribunal aujourd'hui, en train de nous défendre, en train de nous justifier, en train d'expliquer que c'est pas vraiment ça, que de toute façon c'est pas de notre faute totalement, et que en plus, hein, ouais, je pense qu'on en entend des vertes et des pas mûres dans les commissariats et dans les tribunaux de justice. Mais Dieu, il en entend des vertes et des pas mûres dans la justification de comment on arrive à montrer que c'est pas vraiment nous, c'est pas un péché, c'est pas ceci, c'est pas... Quand la justice frappe à notre porte, oulala, on n'a pas trop envie qu'elle nous atteigne. Si on peut y échapper, si on peut échapper au jugement, même si on sait qu'on est coupable, on le saisit. Et alors que même quand on sait qu'on est coupable, la justice nous atteint, ça fait émerger une sorte d'amertume et de haine. On est en colère contre la justice parce qu'elle nous a atteints. Ah, les impôts, ils m'ont rattrapé, ils m'ont mis un redressement. Et on insulte volontiers, hein, lorsque la justice nous atteint. C'est curieux. C'est curieux que nous avons une telle soif de justice. Mais lorsqu'elle nous atteint, nous, lorsque c'est pour notre péché à nous, là tout devient très très relatif. Il est de la justice de Dieu de juger le monde avec justice. Et on le sait. Parce que l'absence de justice, c'est quelque chose qui nous révolte autour de nous, dans notre monde. Lorsque les autres nous blessent, nous font du tort, l'absence de justice, ça nous tient là. Et on réclame la justice, on réclame cette balance. Et Dieu jugera avec justice. Il est le seul juste juge, exactement parfait, proportionné dans son jugement. Et oui, l'enfer est une notion qui a à voir avec la justice. Pour ceux qui se réconcilient avec Dieu, ils sont jugés également. Mais c'est Christ qui est jugé pour eux. C'est Christ qui porte le châtiment. C'est Christ qui porte la séparation en rançon, à la place, en substitut. Mais la colère de Dieu contre le péché et sa justice, quoi qu'il en soit, elle est faite. Alors, plus profondément, seul Dieu peut juger. Et là, je veux vraiment rentrer dans cette notion de juger la valeur de quelqu'un. Nous, il nous est dit de ne pas juger. Il ne s'agit pas de porter de jugement sur les actes, ce qui est mal et mal. Si tu tues quelqu'un, si tu violes quelqu'un, je ne vais pas dire « Ah, ben c'est pas moi de juger ». Non. Parole nous demande d'avoir du discernement. Il s'agit de juger la personne en tant que corps et âme, de fixer, je dirais, un état définitif de valeur de ce que la personne est et de ce qu'elle restera. Nous, nous avons vite fait de juger les gens, de toute façon, lui, il est comme ça, il restera comme ça. C'est un ceci, c'est un cela. On pose des étiquettes et elles sont définitives. Nous enfermons les gens par un jugement. Et c'est dans ce sens-là que Dieu ne veut pas que nous jugions. Parce que tout au cours de notre vie terrestre, le salut est là. Le changement est possible. La réconciliation est à la porte. Et Dieu également attend Nous revenons à cette question de la rébellion d'un être humain contre son créateur. Quand est-ce que cette rébellion va être définitive, va être scellée, va être irrémédiable? Et qui va pouvoir juger de dire de toute façon c'est fini, il n'y a rien à faire? Il a choisi sa destinée, irrémédiablement, irréversiblement. Seul Dieu peut faire ça. Et tout au long de l'existence terrestre, jusqu'au dernier souffle, il y a, dans le cheminement d'un cœur, une possibilité pour enlever le cadenas qu'il a mis contre Dieu, contre la présence de Dieu dans sa vie, que jusqu'à présent il trouve intrusive, en disant « Ah, ta présence, Dieu, c'est intrusif !» Non, 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 non. Jusqu'à son dernier souffle, on dit « On peut enlever ce cadenas et dire « Rentre dans ma vie ?» Mais la Bible nous montre que lorsque la mort physique intervient, eh bien, cette décision d'un cœur humain est prise et définitivement prise. Ça ne changera pas. Et Dieu, dans son jugement, va entériner, il va constater le fait que telle âme ne veut et ne voudra, quoi qu'il en soit, jamais de la présence de Dieu dans son existence, de l'autorité de Dieu dans sa vie, de la nature sainte de Dieu dans sa conscience, dans sa vie, dans ses actions, dans ses pensées. Juger de la part de Dieu, c'est faire ce constat où Dieu constate une prise de position définitive d'un être humain à l'égard de son Créateur. Vous savez, 2 Pierre 3, verset 9 nous dit que Dieu est patient. Il est patient, ne voulant qu'aucun périssent, mais que tous parviennent à la repentance. S'il y avait une repentance possible après la mort physique, Dieu la laisserait. Mais il n'y en a pas. C'est en tant qu'être humain, dans ce parcours terrestre qui est le nôtre, que l'être humain hésite, cherche, fait des choix, peut revenir sur ses choix concernant Dieu, mais qu'il scelle à un moment de manière irréversible pour lui-même en disant « ça y est, moi j'ai cadenassé et ça restera cadenassé toute ma vie, je ne changerai pas d'avis, Dieu, je n'en veux pas ». Personne n'ira en enfer alors qu'il voulait de la présence réellement de Dieu dans sa vie. Regardez quelque chose qui nous surprend en Apocalypse. Apocalypse 16. Bien sûr, c'est dans le temps de la tribulation, de la grande tribulation, de ces êtres humains qui vont vivre des temps difficiles face à Dieu. Et Apocalypse 16, verset 9, donc il y a un fléau qui arrive sur la terre. On ne sait pas forcément de quelle nature, mais dans ce fléau, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a fait l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Au verset 11, maintenant ce sont des ténèbres. Un royaume couvert de ténèbres, verset 10, les hommes se mordaient la langue de douleur. On pourrait croire que ils savent où est la rédemption. Ils savent quelle est la décision à prendre. Mais la réponse au verset 11, c'est ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il n'y a pas ce demi-tour. On est en train de porter sur soi la conséquence et la souffrance et la douleur de ses actes. Mais même ça ne vous pousse pas à changer d'opinion et d'avis quant à Dieu. Blasphème. Et pas de repentance, pas de demi-tour. Et le verset 21 nous le répète une troisième fois. Une grosse grêle dont les grelots pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Il dit que dans le ciel, il y aura des grincements de dents. Mais vous savez, c'est intéressant, lorsque cette expression est prise dans la parole, grincement de dents, on grince des dents contre quelqu'un. On grince des dents de colère et d'amertume contre quelqu'un. Et ces grincements de dents, ils seront dirigés contre Dieu. On continuera de maudire et de haïr Dieu en enfer. Alors, voilà l'histoire du cheminement d'un cœur humain qui se scelle définitivement lui-même et qui ne changera pas d'avis, qui ne changera pas de position. Et le jugement, c'est ça, c'est Dieu, et il n'y a que Dieu qui peut savoir le moment où, malgré son appel, malgré son insistance, malgré sa volonté que tous parviennent à la repentance et soient sauvés, Dieu veut que tous soient sauvés, nous dit la Bible, mais Dieu ne force personne. Et il n'y a que lui qui sait à quel moment un cœur se ferme définitivement, irrémédiablement. Pas à cause de Dieu, à cause de... Voilà, c'est ma décision et elle est définitive. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas de ce qu'il est. Je ne veux pas de son autorité dans ma vie. Alors, terminons avec un petit peu plus sur l'enfer, nous terminerons là. Si on étudie la Bible, on trouve dans l'Ancien Testament un terme hébreu, c'est le terme « Sheol ». Qui désigne le séjour des morts. Et ce séjour semble posséder deux parties, parce qu'on y trouve à la fois les justes et les injustes. Et l'histoire que Jésus raconte nous amène à voir que dans ce séjour des morts, les justes et les injustes sont séparés les uns des autres. Il semble que les âmes aient un état de conscience et que déjà partiellement le séjour des injustes soit tourmenté tandis que celui des justes soit paisible. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme Hadès, le Hadès qui apparaît, pour désigner là également le séjour des morts, mais cette fois-ci exclusivement celle réservée aux injustes. Les justes semble désormais, depuis la résurrection de Christ, être emmené auprès de lui. Paul le dira, être auprès de Christ, c'est de beaucoup meilleur. Jésus qui le dit au brigand sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quoi qu'il en soit, le séjour des morts, le Sheol ou le Hadès, ou la présence auprès de Christ, ce n'est pas l'état définitif. C'est quelque chose d'intermédiaire. En attendant, ce que la Bible dit, la résurrection de tous, des justes et des injustes. Pour l'instant, dans le Sheol ou le Hadès, la présence auprès de Christ, c'est l'âme qui y est. Et la mort n'est rien d'autre que la séparation entre l'âme et le corps. Ce n'est pas la fin de l'âme, ni d'ailleurs la fin du corps, puisque toutes les particules, même si ça retourne à la poussière, elles continuent d'exister et Dieu ressuscitera. Il est dit que la mer rendra les morts qui sont en elle et que le Hadès, le séjour des morts, rendra les morts qui sont en lui. Alors, un autre terme est employé par Jésus dans le Nouveau Testament, et ce terme-là désigne sans doute plutôt l'enfer final dont nous parlerons, hein, et non pas ce lieu temporaire en attendant la résurrection. C'est le mot Géhenne. La Géhenne, ça vient, c'est Géhinnom, c'était la vallée de Hinnom, c'était une vallée proche de Jérusalem. Et autrefois, à l'époque des rois d'Israël et de Juda, des rois qui s'étaient éloignés de Dieu avaient dressé dans cette vallée des tas d'idoles et avaient même fait des sacrifices humains dans cette vallée. Alors cette vallée proche de Jérusalem, bien sûr, le peuple ensuite a été emmené en exil, il y a eu le retour, et à ce moment-là, les Juifs n'ont plus jamais versé dans l'idolâtrie. Et c'est devenu donc une vallée un petit peu maudite, si vous voulez, parce qu'il y avait ce souvenir de tas d'idoles et de sacrifices humains, etc. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait à l'époque de Jésus ? Une décharge publique. Lorsque Jésus était à Jérusalem, la décharge publique de toute la contrée, c'était cette fameuse vallée, la Géhenne, la vallée de Hinnom, Géhinnom, et on y apportait tous les détritus qui étaient brûlés. Et voilà pourquoi on parle d'un feu qui ne s'éteint pas, parce qu'il y a plus grande décharge à ciel ouvert de la contrée de Jérusalem, où on amène tous les détritus, et où on brûle, et où le ver est là et opère sa fonction de corruption, hein, de pourrissement. Voilà. Alors, c'est une image qui parlait à l'époque de Jésus à ses contemporains, en disant, faites attention, parce que vous savez, la destinée finale, si vous ne vous mettez pas en règle avec Dieu, eh bien c'est comme les détritus, ils finissent dans cette décharge à ciel ouvert où tout brûle. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Parce que c'est une image qui est forte. Eh bien ça nous enseigne que l'enfer est cet endroit où l'être humain refuse la valeur que Dieu lui accorde. Nous avons de la valeur pour Dieu. Et Dieu invite chaque être humain en disant, mais je t'aime, je suis mort pour toi, réconcilie-toi avec moi, tu as de la valeur. Et l'être humain qui dit, mais moi j'ai de la valeur pour moi-même, mais je ne veux pas en avoir pour toi, tu ne m'intéresses pas, je ne te veux pas dans ma vie. C'est ce symbole où l'être humain refuse d'être entre les mains de Dieu et en relation avec lui. Hein, lorsqu'on jette un objet à la poubelle, c'est que manifestement, il ne vous est plus utile à rien. Eh bien, là, c'est vraiment ce symbole de dire, je ne veux pas être entre tes mains. Je ne veux pas être entre tes mains, je ne veux pas t'être utile, je ne veux pas te servir, je veux pas de ta présence, mets-moi ailleurs. Mets-moi ailleurs. Alors la Bible donc nous parle de ce séjour des morts temporaire en attendant la résurrection, le Hadès. Et Apocalypse 20 nous dit que le Hadès rendra les morts, chacun ressuscitera pour le jugement. Et après cela, le Hadès sera jeté dans l'étang de feu que Dieu a préparé. Et c'est souvent ça qu'on appelle l'enfer. Aujourd'hui, l'enfer est vide. Il n'y a absolument... Je ne sais même pas s'il existe déjà. Est-ce que Dieu l'a déjà préparé ou pas encore ? Parce qu'Apocalypse nous dit que Dieu l'a préparé. C'est une prophétie. Est-il déjà prêt ? J'en sais rien. Autant il le préparera lorsqu'il fera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, enfin dans toute cette perspective-là, peut-être que l'enfer n'existe pas encore. Le Hadès, oui. L'enfer, peut-être, je ne positionnerai pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, il est vide. Ce qui est rempli aujourd'hui, c'est le Hadès. C'est ce séjour temporaire où il y a déjà un petit peu comme un condamné, vous savez, quand on est en détention préventive. Le jugement n'a pas été rendu. Donc on n'est pas, on n'est pas dans le jugement encore et dans la, on n'exécute pas sa peine. On est en détention préventive. C'est ça le Hadès. Puis viendra le jugement. Et là, résolument, cet endroit que communément on appelle l'enfer, qu'est-ce que sera l'enfer ? La Bible expose simplement le tourment, la souffrance, la douleur qui règne, les grincements de dents, cette amertume extrême contre Dieu qui persiste, le ver qui ne meurt pas. Voilà certainement une image de ce qui va ronger, de ce qui ronge un être humain dans ses pensées. Vous savez, il suffit de regarder autour de nous la dépression. Certaines maladies mentales peuvent nous donner une idée de comment un être humain peut être rongé de l'intérieur et vivre avec une ruine personnelle qui a peu d'issue. Hein. Quand on est dans la dépression, quand on se dit waouh, mais pas besoin d'une grande prison hein, pour être ruiné intérieurement. Il suffit d'être face à soi-même. Je me demande ce que ça doit être lorsque Dieu donne à l'homme ce qu'il veut avoir. Lorsque l'être humain dit à Dieu, écoute, je ne veux pas de toi. Laisse-moi être mon propre maître, laisse-moi à moi-même. Et Dieu qui insiste et qui dit, mais non, fais ta vie avec moi. Non. Fais ta vie avec moi. Non. Ben ok. Je peux pas te forcer. Fais ta vie. Je me retire. De Thessaloniciens, une ruine éternelle loin de sa face et de sa gloire. Vous savez, prenez avec moi Jacques 1, verset 17. Et on terminera par cette notion-là, Jacques 1, 17 et 16. 16, 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Est-ce qu'il y a des choses belles et bonnes dans cette vie ? Oui. On aime les couleurs. On aime les couleurs. De qui viennent-elles ? De Dieu. C'est pas étonnant que si Dieu est lumière, mais qu'on dit, mais toi, je veux pas de toi, Dieu. Si Dieu est lumière, que reste-t-il lorsque Dieu se retire ? Les ténèbres. Voilà pourquoi tant de descriptions de l'enfer sont des ténèbres. Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière et qu'on dit à Dieu, mais je veux pas de ta lumière dans ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut. Et il y a tant et tant de choses qui réjouissent notre âme. Regardez en Actes. Vous allez dire, mais est-ce que dans ce monde, est-ce qu'on bénéficie sans le savoir de la bonté de Dieu ? Oui. Mais l'enfer, ça sera Dieu qui va enlever complètement sa présence. Alors, pas forcément entièrement, hein, dans le sens où rien ne peut exister sans Dieu, il restera ce feu dévorant. Hébreux nous dit que Dieu est un feu dévorant. Mais il va retirer toute la gloire de sa puissance, nous dit Thessaloniciens. Ce qu'il apporte, sa perfection. Regardez en Actes. Donc, Actes 14. Un verset qui est en relation avec ce que disait Jésus et ce qu'il rappelait de l'Ancien Testament. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. En acte 14, au verset, milieu du verset 15, tout à la fin, il dit « pour vous tourner vers le Dieu vivant », la conversion, le demi-tour, « pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve ». On aime la mer. Moi, j'aime aller à la mer, regarder la mer, je me dis « ah, c'est chouette, c'est beau ». C'est Dieu, ça vient de Dieu. J'aime bien les paysages et on aime visiter les pays et dire « oh, ben, là, c'est magnifique ces paysages, on va faire un petit safari photo, tout ça ». Ça vient d'où ? Ça vient de Dieu. Romain nous dit, mais ces perfections invisibles se voient dans la création. Vous prenez un animal et vous regardez cet animal, vous dites, c'est quand même incroyable. Oh, c'est fantastique, un dauphin, c'est fantastique, ceci, un chat, j'adore. Ouais, ça vient de Dieu. Et la suite nous dit, verset 16, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. De ce qu'il est. Mais c'est le problème, c'est que moi je dis, mais moi je veux pas de ce que tu es, Dieu. Moi je veux pas. Je veux ailleurs. Mais ailleurs de ce que Dieu est, c'est l'enfer. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Vous savez, aujourd'hui sur cette terre, on aime cette vie. Et quantité de gens peuvent apprécier la vie et l'existence tout en refusant que Dieu ait une place dans leur existence, alors que tout ce qu'ils apprécient, ça vient de Dieu. Dieu est lumière. Dieu est amour aussi, n'est-ce pas ? Ah, mais quand Dieu se retire, que reste-t-il ? Quand l'amour disparaît ? Parce que là, nous sommes capables d'aimer parce que d'une manière ou d'une autre, dans ce que Dieu maintient sur cette terre, les parents qui ont des enfants, l'affection filiale, etc., ça vient de Dieu. Retirer tout ça, retirer Dieu de l'équation, j'ai pas envie d'y être. C'est l'enfer. Si Dieu est la somme de toutes les perfections, de toutes les beautés, si je le retire, que reste-t-il ? Ah mais je veux être mon propre Dieu, mon propre maître, je veux faire mon propre univers. Je veux régner sur mon propre univers, c'est ça être Dieu. Écoute, vas-y. Et Dieu dira, vas-y. Comme un gentleman, je me retire dans ce que je suis. Et nous voyons dans toute la parole que pour l'instant, Dieu ne s'est pas retiré de ce monde-là. Il porte le monde, il soutient le monde par sa parole puissante. Il intervient, il rend témoignage de lui par la joie qu'il met dans les cœurs, par l'amitié, par l'amour, par la beauté, par l'esthétique, par tout ce qu'il a créé. Tu veux créer ton propre monde ? Tu vas créer quoi de mieux ? Je sais pas, mais je veux créer mon propre monde. Eh bien, fais comme tu veux. Je te laisse à toi-même. Et nous l'avons vu dans Romains 1, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Être livré à soi-même, être son propre Dieu, c'est ce qu'on peut réclamer envers Dieu. Fiche-moi le camp, laisse-moi être moi-même, sois toi-même. Et l'enfer est sans doute ce lieu où les gens seront eux-mêmes. Dieu se retirant dans toute la sainteté, la perfection, la beauté, l'amour, la lumière qu'il est et qu'il donne. Nous voulons insister ce matin pour dire que la destinée humaine, on a parlé de cette pensée de l'éternité, il n'y a pas une annihilation. En disant, ben voilà, ceux qui n'auront pas cru en Dieu, tout ça, Dieu va les démoléculiser. Va les, voilà, il va simplement les faire cesser d'exister. La Bible ne donne jamais aucune indication au contraire dans une telle destinée. Mais il donne à l'homme ce qu'il veut, c'est-à-dire son absence. Et l'homme fera avec l'absence de Dieu, avec l'absence de son dessein bienveillant de bonté envers lui. Alors, que cela puisse nous encourager à prendre au sérieux notre rôle d'ambassadeur pour Christ. Quand Paul disait « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu », c'est parce que, à son niveau, il peut mesurer deux destinées. Qu'on scelle soi-même, qu'on ferme soi-même. Et qu'il dit « Non, je t'en supplie, ferme pas ton cœur, ne cadenasse pas. » L'enfer, il est cadenassé de l'intérieur. C'est pas Dieu qui va mettre des cadenas pour qu'on ne sorte pas de l'enfer. C'est l'être humain qui va cadenasser de l'intérieur. Parce qu'il ne veut pas de la présence de Dieu, de ce que Dieu est. Et Dieu sera tout en tous. Alors quand Dieu est tout en tous, où reste-t-il de l'espace pour qu'il n'y soit pas ? Alors on va cadenasser de l'intérieur l'enfer pour ne pas avoir affaire à Dieu. Un petit peu comme Apocalypse, où jusqu'au bout, on préfère blasphémer, maudire Dieu, grincer des dents contre lui. Alors vraiment, Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons vraiment un rôle de témoin, de sentinelle. Tant que l'être humain est en face de nous avec son souffle, il peut ouvrir sa vie à Jésus-Christ. On ne peut pas. Ce n'est pas à nous de dire, de toute façon, quelqu'un, celui-là, il ne se convertira jamais, celui-là, il n'ouvrira jamais sa vie à Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut déterminer. Nous avons ce rôle d'amour. Parce que franchement, si on n'aime pas parler de l'enfer, c'est que ça nous dérange profondément, ça nous met mal à l'aise, ça nous met dans une tristesse profonde. Eh bien, cette tristesse profonde, qu'elle soit un moteur pour annoncer l'Évangile, avertir. Non pas en disant aux gens, tu vas aller cramer en enfer, ça sera bien fait. Parce que je mérite d'y aller. Je mérite d'être séparé de Dieu. Et si je ne le serai pas, c'est parce que Jésus-Christ a payé à ma place. Et cette offre, elle est à saisir pour chacun. Tant qu'on est sur cette terre, prions. Seigneur, c'était l'occasion, Seigneur, de reconsidérer ce sujet dont nous ne parlons pas très souvent. Que cela puisse vraiment, Seigneur, nous amener à témoigner de toi avec amour, avec force, avec insistance. Nous ne voulons pas, Seigneur, commencer à faire des tas d'élucubrations sur l'enfer, sur tout ça. Tu nous en dis suffisamment pour qu'on soit saisi, qu'on soit figé face à ce que toi tu es, avec tout don excellent qui vient de toi, tout don parfait, et les ténèbres qui résultent du fait que tu retires cette puissance de gloire qui est la tienne, parce qu'on n'en veut pas. Seigneur, que nous puissions vraiment jour après jour saisir les occasions de dire autour de nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et que nous sachions, Seigneur, dans notre prédication, dans notre témoignage, lorsque nous parlons aux gens, avoir un message équilibré, et ne pas oublié, Seigneur, de parler de ce sujet dont toi tu parles avec force tout au long de la Bible, et qui est cette destinée éternelle loin de ta face, une destinée qui est choisie, qui est volontairement choisie et assumée. Mais combien triste, combien triste que tu puisses sauver des âmes et que tu puisses nous utiliser comme tes instruments pour être les trompettes qui avertissent, pour être la bouche qui s'ouvre pour annoncer l'Évangile. Tu vois chacun de nos cœurs, Seigneur, tu vois nos interrogations, nos doutes, et nous voulons vraiment te prier pour que ceux qui réfléchissent, ceux qui hésitent, n'attendent pas davantage et puissent dès aujourd'hui t'inviter dans leur cœur, dans leur vie, faire ce demi-tour, faire route avec toi, se réconcilier définitivement par Jésus. Amen.